Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Tournons nos yeux aujourd'hui vers l'horizon sud-est. Enfin, si vous êtes en été, en début de soirée et dans l'hémisphère nord. Aujourd'hui, nous regarderons le Sagittaire. C'est un signe du zodiaque bien connu. On ne sait pas toujours à quelle image l'associer. Le Sagittaire est un archer. D'ailleurs, son nom vient du latin Sagittarius, qui veut dire archer. On l'appelle aussi l'arcifère, qui veut dire le porteur d'arc. Il est souvent figuré par un centaure, qui est une chimère mi-homme, mi-cheval, avec un torse d'homme, mais un corps de cheval, qui lui donne en tout 6 membres. Mais ça, c'est une autre histoire. Cependant, les sources ne sont pas toutes d'accord. Il semblerait que le rapprochement entre Sagittaire et Centaure soit assez récent. Car Johann Bayer, dans son Uranometria, le catalogue des constellations célestes publié au XVIe siècle, il ne décrit dans le Sagittaire qu'un arc, un carquois ou une main armée d'un trait. Et on l'appelait à cette époque la constellation de l'arc ou le signe de l'arc. Ceux qui se refusent à y voir un Centaure disent que jamais les Centaures ne firent usage de flèches. D'autres ajoutent que le Sagittaire est debout et qu'il n'a que 2 pieds. Cependant, dans les Fabulae du romain Higinius, qui répertorie les mythes grecs et romains, l'homme du Sagittaire a des pieds de cheval et une queue de satyre, ce qui l'assimile au centaure. Quelques auteurs l'appellent Crotus, le fils d'Euphémée, la nourrice des muses. Il habitait sur le mont Hélicon, où il vivait en intimité avec les muses et se livrait aux exercices de la chasse. Ses talents lui acquirent beaucoup de réputation. Il réunissait la finesse d'esprit et la rapidité à la course. Et pour rendre cette double idée, Zeus le plaça dans les cieux, lui donna les pieds d'un cheval, dont il avait fait beaucoup l'usage, et lui mit en main la flèche, qui symbolisait en même temps la vitesse. On le fait aussi petit-fils de l'océan, en lui prêtant un goût pour la navigation, ce qui peut expliquer pourquoi il est juste à côté de la constellation du Verseau. La constellation du Verseau n'est plus connue telle qu'elle. Elle représentait dans l'Antiquité le fameux Argos, le bateau de Jason, dans l'aventure de la Toison d'or. Mais cette constellation était si grande qu'elle a ensuite été divisée en plusieurs constellations par l'astronome Nicolas-Louis de La Caille dans les années 1750. On connaît maintenant la carène, la poupe et les voiles, auxquelles s'ajoute la boussole. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est sans doute parce que ce sont des constellations du ciel austral et qu'elles ne sont pas visibles à nos latitudes. Restons un temps dans l'hémisphère sud pour parler de la constellation du Centaure. Sans arc cette fois, mais avec 4 pattes et 2 bras. Il est représenté comme un centaure pourfendant un loup, sa constellation voisine. Les centaures ne sont pas franchement des créatures bénéfiques dans la mythologie grecque. C'est un centaure, par exemple, qui est à l'origine de la mort d'Hercule. Ce centaure, c'est Nessus. Il avait pour mission de faire traverser le fleuve Evenos. Un jour, Hercule, en compagnie de sa femme Déjanire, doit traverser ce fleuve. Hercule confie donc à Nessus le soin de faire traverser sa femme. Seulement, Nessus en profite pour agresser Déjanire. Le sang d'Hercule ne fait qu'un tour, il décoche une flèche au centaure, une flèche empoisonnée avec le sang de l'hydre de Lerne. Le centaure meurt donc, mais avant d'expirer, il propose à Déjanire de recueillir son sang, qui lui dit être un puissant filtre d'amour. Des années plus tard, lassé par l'attitude quelque peu volage d'Hercule, Déjanire lui offre une tunique trempée dans le sang du centaure, pensant que ce filtre d'amour lui donnerait un peu plus de fidélité. Malheureusement, le sang du centaure n'avait aucun pouvoir bénéfique, mais était au contraire contaminé par le poison de l'hydre de Lerne. Hercule revêt cette tunique qui l'empoisonne et le fait mourir dans d'atroces souffrances. Nessus, le fourbe, est donc vengé. Mais tous les centaures ne sont pas mauvais, violeurs ou menteurs. On peut par exemple citer Chiron, le fils de Cronos et de l'océanide Philyra. Il est réputé pour sa grande sagesse et ses nombreuses connaissances. On lui confie l'éducation de nombreux héros qui deviennent ses disciples, notamment Achille, Hercule ou encore Asclépios. Ce dernier fut élève de Chiron, surtout dans l'art de guérir. En matière de guérison, il fut un élève un petit peu trop brillant, car il finit par découvrir la panacée, ce médicament tellement efficace qui lui permettrait de réveiller les morts. Hadès, sentant son royaume se dépeupler, est allé se plaindre à Zeus, qui foudroya le médecin. Chiron, lui, mourut, un peu comme Hercule finalement, pendant la quête du sanglier d'Érymanthe. Il aida Hercule, mais fut atteint au genou par une flèche empoisonnée du sang de l'hydre de Lerne. Oui, encore une. Cette blessure ne fit pas mourir Chiron, car il était immortel. Mais elle le fit tellement souffrir qu'il demanda à Zeus de lui retirer son immortalité, qui fut transférée à Prométhée. D'un point de vue astronomique, la constellation du Centaure est surtout notable car elle abrite l'étoile la plus proche de notre Soleil. En effet, le système Alpha du Centaure n'est situé qu'à 4,2 années-lumière du Soleil. Ce système est composé de Rigel Cantaurus, le pied du Centaure en arabe, de Toliman et de Proxima, une petite étoile naine rouge, moins lumineuse que ses deux voisines, mais techniquement, l'étoile la plus proche du Soleil. La Voie lactée est la plus dense, à l'endroit où elle traverse le Sagittaire. Comme vous le savez, la Voie lactée, c'est notre galaxie. Quand on regarde vers le Sagittaire, on regarde vers le centre de notre galaxie. Notre galaxie est une galaxie spirale. Les étoiles qui la composent se comptent en milliards. Elles sont regroupées sous la forme d'un immense disque. Dans ce disque, il existe des zones plus denses et d'autres plus vides. Ces zones denses forment des bras en forme de spirale autour du centre de la galaxie. Les étoiles tournent autour du centre de la galaxie comme les planètes autour du Soleil. Une révolution complète dure environ 200 millions d'années. Et notre système solaire est situé sur la périphérie du disque. La Voie lactée telle qu'on la voit dans le ciel, c'est donc notre galaxie vue par la tranche. Et quand notre regard parcourt le tracé blanchâtre de la Voie lactée, il voit plusieurs bras spiraux en même temps, superposés. Les identifier pour notre œil est impossible. Nous sommes un peu comme un oiseau sur une branche qui chercherait à reconstituer la forme de son arbre. Pourtant, en se basant sur la position des étoiles bleues, les astronomes ont réussi à démêler l'enchevêtrement des bras spiraux de notre galaxie et à positionner notre système solaire. Et en fonction des constellations qu'on regarde, on peut parcourir la Voie lactée. Quand on regarde vers le Sagittaire, on regarde vers le centre de notre galaxie. Par conséquent, le Sagittaire contient un bon nombre d'étoiles brillantes, d'amas et de nébuleuses. Un des amas les plus brillants du Sagittaire, c'est M55, à environ 7,5 degrés à l'ouest de Delta Sagittarius. M55, c'est un amas globulaire, qui est le regroupement de milliers d'étoiles dans un périmètre réduit. Enfin, réduit en termes astronomiques, hein. On parle quand même de dizaines d'années-lumière de large. La plupart des amas globulaires de la Voie lactée sont observés à proximité du noyau galactique. Et une majorité apparaît dans la partie du ciel céleste centrée sur le noyau, c'est-à-dire autour de la constellation du Sagittaire. En 1918, cette distribution très asymétrique a été utilisée par Arlo Chapley pour déterminer les dimensions de notre galaxie dans son ensemble. Chapley a pris l'hypothèse que les amas globulaires suivaient une distribution plus ou moins sphérique autour du centre de la galaxie. Il utilisa leur position pour calculer la position du Soleil dans la galaxie. Ce faisant, Chapley a ramené le Soleil à sa véritable place, à la périphérie de notre galaxie et non au centre. Il a ainsi montré que la taille de notre galaxie est bien plus grande que ce qu'on pensait auparavant. Elle mesure 120 000 années-lumière de diamètre. La constellation du Sagittaire contient aussi des nébuleuses, comme la nébuleuse du Lagon, près de Lambda Sagittarius, qui est très belle vue au télescope. Et même si vous avez une bonne vue ou de bonnes conditions d'observation, à l'œil nu ou aux jumelles. C'est pourquoi cet objet est observé depuis le XVIIe siècle. La nébuleuse de la Lagune est un immense nuage d'hydrogène et de poussière, éclairé par une supergéante bleue, l'étoile 9 du Sagittaire. La taille de la nébuleuse est d'environ 110 années-lumière, et sa distance à la Terre tourne autour des 5000 années-lumière, ce qui lui donne une taille apparente trois fois plus importante que celle de la pleine Lune. Du fait de sa magnitude 6, la nébuleuse est visible à l'œil nu dans des conditions idéales. La taille apparente très importante de l'objet impose au télescope d'employer un grossissement suffisamment faible pour pouvoir l'observer en entier. La région la plus brillante de cette nébuleuse contient un objet particulier, répondant au doux nom de MYCN18. Mais on la nomme plus communément la nébuleuse du sablier, en raison de sa forme. C'est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire le résultat de la libération des couches externes d'une étoile de type solaire en fin de vie, dont on peut voir la naine blanche résultant en son centre. Les photos qu'on peut trouver sur Internet sont extraordinaires et permettent vraiment de comprendre ce qui se passe à la fin de la vie d'une étoile. D'autres galaxies se trouvent dans la constellation du Sagittaire, comme par exemple la nébuleuse du Trèfle, dont on possède de très belles photos prises par le télescope Hubble. C'est une nébuleuse en émission, traversée par une nébuleuse sombre, ce qui lui donne un aspect très particulier sur les photos. No one En regardant dans la direction du Sagittaire, on regarde aussi vers un objet situé au centre de notre galaxie, le trou noir supermassif Sagittarius A étoile. Vous ne le verrez pas à l'œil nu, pour la bonne et simple raison que personne ne peut voir un trou noir. En effet, cet objet si dense que son champ gravitationnel ramène tout à lui, y compris la lumière, qui ne peut s'en échapper. La plupart des galaxies ont en leur centre un trou noir supermassif. Les astronomes avaient déjà observé le trou noir de la galaxie M87, car paradoxalement, il est plus simple à observer et à mesurer que celui de notre propre galaxie. Tout simplement parce que, entre nous et le centre de la Voie lactée, il y a énormément d'étoiles, de nuages interstellaires qui compliquent l'observation. C'est en 2017 que les observations ont été faites avec le télescope Event Horizon. Et depuis, les données ont été travaillées par les scientifiques. Et une image a été produite en mai 2022. Il faut se rendre compte de la taille de ce trou noir et de la distance à laquelle il est par rapport à nous. En fait, c'est un peu comme photographier un beignet qui serait sur la Lune. Et ce n'est pas une photographie qui a été prise, c'est un assemblage de mesures faites par des dizaines de radiotélescopes situés tout autour du globe, qui sont rassemblées pour être équivalentes à une antenne de 9000 km de diamètre, quasiment la taille de la Terre. Les chercheurs de plusieurs pays ont donc coopéré pour rassembler les données et produire une image du trou noir de notre galaxie.